Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 6, le rang, versets 1 à 12, de la collection Commentaires du Coran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الأخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bien, nous allons commencer ce cours, ce séminaire avec une sourate qui est une sourate importante, connue et qui, nous pourrions dire en guise d'introduction, se réfère à l'épreuve en même temps qu'elle se réfère à la façon dont nous sommes, dont nous nous comportons, dont les musulmans et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont comportés et ont fait face aux épreuves qui étaient celles à leur époque de la lutte contre ceux qui les agressaient et qui ne reconnaissaient pas la réalité de l'islam. Et donc nous avons ici une sourate qui fait référence à non seulement au comportement que nous pouvons avoir par rapport à l'adversité, mais également à ce lien qu'il doit y avoir entre ce que nous disons et ce que nous faisons, entre ce qui est apparent de notre personne, mais en même temps, tout au fond, au cœur et dans le creuset de notre cœur, ce qui est la foi et ce qui est la fidélité que nous devons trouver dans une sincérité de la foi. Et en d'autres termes, on va s'apercevoir que face à l'épreuve, ce qui est l'apparent, c'est la bonne ou la mauvaise compréhension de la foi, la bonne ou la mauvaise compréhension des exigences de la foi. Et nous allons pouvoir, au fil des versets qui sont les suivants, de Sourate As-Saff, la Sourate 61 du Coran, percevoir ceci. Alors, en général, quand on commence cette Sourate, on s'arrête rarement au premier verset. Et pourtant, je crois que, comme rien n'est dû au hasard dans ce Coran, il faut s'y arrêter. Ba'da'ouz billahi minash shaitan ar-rajim, bismillahi ar-rahman ar-rahim, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwa al-azizul hakim. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre chante la gloire ou proclame la gloire de Dieu, et il est certes le puissant et le sage. Dans la dimension ici du temps, yusabbihu ou sabbaha, qui est plutôt dans l'ordre du passé, il y a une dimension très importante, parce que immédiatement on serait entraîné à voir ce qui nous concerne. Ya ayyuhalladhina amanu, qui vient dans le deuxième verset. Mais il y a ce premier verset qui est finalement la clé de tout le reste. Ô vous qui portez la foi, ô vous qui vous approchez de Dieu, au moment même de l'épreuve, n'oubliez jamais que tout ce qui est autour de vous reconnaît le maître de l'épreuve. Que tout ce qui est autour de vous glorifie la présence au-delà de chaque élément du Créateur des éléments. Et c'est fondamental. Le jour où l'on fait face à une épreuve qui oublie la spiritualité de son cœur et la spiritualité de tous les éléments, a tout oublié. Et si avant de parler de l'épreuve et de vous qui dites ce que vous ne faites pas, observez autour de vous ce qui est en permanence la manifestation naturelle et sincère de la présence du Créateur. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Cette louange perpétuelle, éternelle, sincère et harmonieuse, elle est l'expression de l'harmonie. Et tout ce qui va être dit sur l'homme tout de suite maintenant, c'est l'expression de la disharmonie. Tu dis ce que tu ne fais pas, alors que le monde te montre en permanence qu'au-delà de ce qu'il est, il est en harmonie avec le Créateur de ce qu'il est. Cette dimension du premier verset qui vous met immédiatement dans une dimension de spiritualité, sans la spiritualité, tu ne comprends pas l'épreuve. Tu penses qu'elle est injustice, tu penses qu'elle est blessure, tu penses qu'elle est fracture, tu penses qu'elle est oubli. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu te rappelle qu'avant d'être quelque chose à la solde de ton interprétation, n'oublie pas de l'insérer dans la reconnaissance du Très-Haut, dans la reconnaissance de celui qui est. Alors dès que l'on a compris ça, on peut entrer immédiatement dans la deuxième dimension, celle justement qui est la dimension de l'homme, la dimension de ce cheminement dans la sincérité face à l'épreuve. Alors, il y avait quelques compagnons qui disaient « لَوْ نَعْلَمُوا أَيَّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَمَلْنَاهُ » Si nous avions su, si nous savions quel est le meilleur, ce que Dieu préfère comme acte, nous l'aurions fait. Et il disait ceci, et plus tard, lorsque Uhud, dont nous avons déjà parlé dans ce séminaire, viendra, l'épreuve de la guerre, l'épreuve de la résistance face à l'agression, ils fuiront, ou ne feront pas pour certains ce qu'ils disaient qu'ils allaient faire. D'autres Mufassiroun disent, c'est un verset qui a à voir avec l'hypocrisie, ceux qui disent et qui ne font pas ce qu'ils disent. Et d'autres encore mettent en évidence le fait que, à partir de ce verset, ou des versets qui vont venir, il y a la compréhension pour le musulman, pour la musulmane, que quand tu dis quelque chose, tu es dans l'obligation de t'y tenir. Ça veut dire la fidélité au pacte qui est celui de l'expression et de la parole. Alors, nous avons ces, comme vous l'avez dans votre plan, les deux versets qui suivent, le verset 2 et le verset 3. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Ô vous qui portez la foi, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une énormité auprès de Dieu de dire ce que vous ne faites pas. Alors à partir de cette dimension-là, ceux qui avaient dit, si nous savions, les compagnons du prophète, pas nous aujourd'hui, éloignés de cette dimension de la sincérité première, de cette présence qu'ils avaient avec le prophète, eh bien, ils avaient parlé et ils ne faisaient pas, pour certains d'entre eux, ce qu'ils disaient. D'aucuns étaient hypocrites, d'autres étaient peut-être affaiblis, d'autres peut-être parlaient sans considération. Et c'est bien ces trois dimensions qui sont importantes. Parler sans considération, je ferai, ou donner une promesse. Or, dans notre dimension, selon le proverbe, mais c'est vraiment islamique de ce point de vue-là, une promesse est une dette. Raison pour laquelle il faut se méfier des promesses légères, et que pour ceux qui sont en permanence avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils savent que la promesse est lourde. Donc il faut dire que ce que l'on peut faire, et ne pas dire plus que ce que l'on peut faire. Ça veut dire maîtriser sa langue à la mesure de ses capacités et de son engagement possible. Cette dimension, elle est également fondamentale même par rapport à l'autre, le deuxième plan, l'hypocrisie. Ceux qui effectivement disent une chose, mais qui dans leur fort intérieur ne le portent pas avec sincérité. Et nous connaissons les signes de l'hypocrisie sont de trois. S'il a promis, il ne tient pas sa promesse. Et s'il parle, il ment. Et quand on lui donne un dépôt, il le trahit. Ces signes-là sont aussi cette dimension de ceux qui parlent et qui dans leur cœur cachent ce qu'ils croient que personne ne voit, mais que Dieu sait. Et donc, là également, une grande compréhension doit être la nôtre par rapport à ce cheminement que chacun d'entre nous, femmes et hommes, essaye d'avoir par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans les petits signes qu'on voit les grands cœurs. Celui qui sait maîtriser sa langue à l'endroit où il ne dit pas « je ferai » sans faire, mais qui préfère le silence à parler sur le vide, à parler sans pouvoir établir la réalité de son action dans le quotidien. Cette dimension-là est également celle que les savants ont dit par rapport à quand on a appliqué un pacte oralement, on doit s'y tenir. Et c'est ce que nous trouvons qu'on dit un certain nombre de savants, man iltazama shay'an lazimahu shar'an. Celui qui s'est tenu à une chose, qui a dit quelque chose, il est dans l'obligation de s'y tenir selon la prescription ou les prescriptions coraniques. C'est-à-dire que si vous annoncez quelque chose, vous devez avoir cette exigence personnelle. Et c'est bien ce que nous dit le Coran. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Et à chacun d'entre nous, ce verset doit résonner comme il a résonné à ceux qui, autour du prophète, se vantaient de faire tout ce qui plaît à Dieu. Et Allah leur répond, vous ne faites pas ce que vous dites que vous allez faire. Vous ne faites pas ce que vous annoncez. Et sachez une chose, kabura maqtan 'indallah. C'est une énormité auprès de Dieu que vous disiez ce que vous ne faites pas. Immédiatement, ce que nous devons comprendre, c'est que l'apparence de nos propos dit énormément sur l'intimité de notre cœur. Et que s'il y a disharmonie, il y a fracture. Et que s'il y a fracture, il y a malaise. Et que Dieu a l'exigence de l'harmonie. Cette harmonie qu'il y a entre ce que ton cœur peut et que ce que ta langue dit est le cheminement premier de celui qui essaye d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala dans les petits détails. Et pour nous en même temps, ça doit nous poser beaucoup de questions dans nos vies quotidiennes. Parce que parfois il nous arrive de dire à des gens quelque chose que nous ne faisons pas nous-mêmes. Alors ça ne veut pas dire que nous soyons des hypocrites. Là aussi, méfions-nous de ce terme qui est utilisé à toutes les sauces. Il y a parfois les meilleures des volontés avec la sincérité d'une incapacité. Et celui qui serait jugé immédiatement comme un hypocrite serait injustement jugé par ses frères et ses sœurs. Ce n'est pas parce que je dis et que je n'arrive pas à faire que je suis forcément un hypocrite. Ça ne veut pas dire cela immédiatement, parce que parfois avec la meilleure des sincérités, on n'y arrive pas. Et donc, ça c'est entre l'homme, l'être humain, la femme et l'homme et Dieu, c'est lui qui sait nos intentions au moment où nous avons dit quelque chose. Mais dans la réalité, il faut toujours tenter, c'est comme ça que l'on est témoin devant les gens, d'être à la mesure de ce qu'on dit et de faire ce qu'on dit aux gens de faire. Et en même temps, ça m'arrive souvent dans des cours comme celui-ci, d'avoir des frères qui confondent ce que je dis avec ce que je suis. Celui qui le dit, là ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'essaye d'être. Il ne faudrait pas être injuste avec celui qui le dit au point de dire « si tu l'as dit, c'est que tu l'es ». Non, si tu l'as dit, c'est que tu essayes de l'être, comme tout le monde. Et qu'il n'y a pas d'ange dans cette salle qui soit visible. Même s'il en est des invisibles, c'est sûr, c'est vérité ce que nous disons. Donc cette dimension de chacun essaye de son mieux de faire et de recommander le mieux pour que nous réussissions à être sincères. Et on se souvient de cet autre verset du Coran, « Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ». Est-ce que vous allez commander aux gens la piété et vous oubliez vous-même ? Eh bien, quand il y a recommandation, essayons, c'est le minimum de la sincérité, de chaque fois nous approcher de ce que nous disons, même à notre entourage et dans ce que nous faisons, au sens que l'on puisse prendre appui sur ce que vous dites autant sur que ce que vous faites, et non pas selon le proverbe « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Celui qui a compris qu'il doit être à la mesure de ce qu'il dit, peut dire « fais ce que je dis et ce que j'essaye de faire ». Et ce que j'essaye de faire. Comprendre aussi que l'une des plus grandes forces de l'être humain, c'est la reconnaissance de ses propres faiblesses et de ne pas faire semblant. Celui qui connaît sa faiblesse est quelqu'un qui a une spiritualité forte. Celui qui fait semblant d'être fort a une spiritualité finalement bien faible. cette dimension des versets 2 et 3 ici, et qui nous met en évidence ce cheminement. Vous savez que certains savants, tout de suite après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, refusaient de parler sur la base de ce verset. Parce que si je te dis une chose et que je ne la fais pas, je préfère le silence. Parfois, ce verset nous conduit à un silence profond plutôt qu'à une parole superficielle. Et en toute chose, il faut préférer la profondeur. Wallahu a'lam. Dans le quatrième verset, immédiatement, ils ont parlé de quoi ? Ils ont parlé, si nous savions ce qui était la meilleure des choses à faire, nous l'aurions faite. Or, il se trouve qu'à ce moment-là, l'une des choses qui est demandée, c'est une sourate qui est une sourate madaniya, c'est-à-dire qu'elle est à Médine. L'une des choses qui est demandée, même si quelques-uns ont dit que c'était makkiya, la majorité des savants disent qu'elle est madaniya, c'est-à-dire qu'elle a été révélée à Médine. Et que l'une des choses qui est essentielle à Médine, comme nous l'avons pu le voir dans les autres cours concernant la vie du prophète, c'est la résistance à l'agression. Et donc c'est ici la lutte, admettre qu'il faille à un moment donné, en désespoir de cause pour préserver sa religion, eh bien entrer dans un combat qui sera ici un combat armé. Et c'est là aussi que l'épreuve est mise à rude épreuve. Et donc ce qui apparaît ici, c'est immédiatement, si vous saviez ce qu'est le meilleur des actes, ou la meilleure des actions auprès de Dieu, vous la feriez. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala répond: Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dieu certes aime ceux qui luttent dans sa voie en rang serré comme s'ils étaient un mur fortifié. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala met cette formule, ce verset comme une réponse. Dieu, ce qu'il aime, c'est le rang serré et c'est le mur fortifié dans le combat. Alors à ce moment-là, quel est ce combat ? C'est un combat effectivement qui est une résistance armée à l'agression armée. Et toute résistance armée à l'agression armée quand elle est injuste est une résistance noble. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui résistent dans la noblesse, non pas ceux qui agressent dans la bassesse, ceux qui résistent dans la noblesse. Mais finalement, comme l'ont compris tous ceux qui ont fait le commentaire de cela, c'est encore à partir de ce combat-là, pour nous, comprendre que chacun a son combat en fonction du contexte où il se trouve. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si tu es en France, si tu es en Suisse, si tu es aux États-Unis, en 1998, ton combat, quel est-il ? Quelle résistance est la tienne ? Quelle union faut-il faire pour pouvoir résister à cela ? Et de la même façon qu'en autre lieu et en d'autres temps, c'est une résistance armée, nous, la première des résistances, c'est effectivement que tous ensemble, nous nous donnions les moyens de pouvoir résister à la principale des agressions qui est celle à laquelle nous devons faire face aujourd'hui, c'est l'agression des intimités. C'est le malaise intérieur, avoir tellement envie d'être avec Dieu et sortir dans un monde qui t'invite tous les jours à l'oublier. Eh bien, ma sœur, j'ai besoin de toi. Mon frère, j'ai besoin de toi. Bunyanun marsus, un mur fortifié. Chaque fois que je sens que mon cœur flanche, que tu sois la protection de mon cœur. Toi, ma femme, toi, mon mari, toi, mes enfants, ou mes frères et mes sœurs de ma communauté. C'est ce que Dieu aime. Mais pour ceci, il faut admettre que c'est une épreuve. Pour ceci, il faut admettre qu'il faille résister. Et il faut se mettre au travail pour la résistance de la protection des cœurs de chacun. C'est pas tout seul devant la télévision que tu résistes. C'est pas tout seul dans ta chambre que tu résistes. C'est pas tout seul loin de la communauté que tu résistes. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Saffan, ça veut dire en rang, serré. Et alors c'est vrai sur le champ de bataille, mais c'est tellement vrai dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est une chose, ce que je suis en train de vous dire, chacun d'entre nous le sait ici. Le problème, c'est que celui qu'on aimerait à côté de nous comme frère, ou celle qu'on aimerait à côté de nous comme sœur, on aimerait que ce soit l'élément qui nous fortifie, non pas le frère ou la sœur qui nous juge. Parce que comment voulez-vous que le mur soit fortifié quand l'un à côté juge l'autre, qui est à sa droite ou à sa gauche? Cette dimension de l'union dans la force, de l'union qui fait cette force, de l'union qui doit nous prouver, qui doit nous établir dans cette dimension de force, elle est pour nous, comme il a été dit à l'époque du prophète, dans cette révélation. Faites ce que vous dites, et vous dites que vous avez envie d'être avec Dieu. Unissez-vous dans l'épreuve pour pouvoir supporter l'épreuve, justement, des intimités déchirées, de la solitude, de l'impression d'être tout seul et de ne pas pouvoir approfondir votre foi devant Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque champ de bataille, ces conditions. Il y a des champs de bataille qui sont des champs de bataille armés. C'est pas notre cas. Et il y a des champs de bataille qui sont des champs de bataille qui sont de l'ordre de la résistance de cœur et de spiritualité. C'est notre cas. Et en toutes circonstances, Dieu aime l'union. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Aidez-vous, soutenez-vous les uns les autres à la piété et à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette dimension-là, elle est importante. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala procède dans ses enseignements. Il procède dans ses enseignements à partir d'exemples, qui sont des exemples qui sont tirés de l'histoire, mais qui sont également des exemples qui sont pour nous des compréhensions plus profondes. Au prophète, et à l'ensemble de ses compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala révèle un Coran qui est un Coran qui guide. Il leur dit l'épreuve, et il leur dit la peine, et il leur dit la résistance, et il leur donne des exemples dans l'histoire. C'est l'exemple de Moussa alayhi salam, Moïse, c'est l'exemple de Isa alayhi salam, Jésus, et c'est l'exemple de tous les autres que vous connaissez dans le Coran. Il leur donne des exemples pour leur dire: ce que vous vivez fut déjà vécu. Ce que vous trouvez comme peine fut la peine de ceux qui vous ont précédés. Et il en est qui vous ont précédés, qui ont peiné, pleuré, résisté et confirmé leur foi. Et bien de la même façon que ceci parle au prophète, et à l'ensemble de ses compagnons, ça doit nous parler à nous. De comprendre que l'histoire de ceux qui portent la foi est l'histoire de la résistance, est l'histoire de l'union, et que dans toutes les circonstances, face à l'épreuve, l'union et la détermination sont incontournables, mais la détermination. Et regardez quelle fut la détermination de Moussa alayhi salam. Quand il nous est dit dans le verset 5, donc ici nous passons à la quatrième partie du verset 5 à 9, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Les versets qui viennent d'être lus disent ceci. Je les ai mis tous ensemble dans un passage un peu long parce qu'ils sont une projection dans l'histoire. La première partie dit ceci. Et quand Moïse dit à son peuple: ô mon peuple, pourquoi me faites-vous du tort alors que vous savez très bien que je suis le messager de Dieu envoyé à vous? Lorsqu'ils dévièrent du droit chemin, Dieu fit dévier leur cœur. Dieu ne guide pas les gens tombaient dans la perversité. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu à vous, venant ajouter foi à ce qui m'a devancé comme Torah, et vous annoncer la bonne nouvelle de la venue d'un messager qui viendra après moi, nommé Ahmad. » Lorsqu'il leur apporta les preuves évidentes, les miracles, ils dirent « C'est là une magie manifeste. » Qui est plus injuste que celui qui a inventé sur Dieu du mensonge, cependant qu'il est invité à embrasser l'islam? Dieu ne guide pas les gens injustes. Il veut éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche et Dieu accomplira sa lumière, n'en déplaise à ceux qui ne croient pas. C'est lui qui a envoyé son messager porteur de la bonne direction et de la religion du vrai, afin de la placer au-dessus de la religion tout entière, n'en déplaise à ceux qui associent des êtres à Dieu. Eh bien, regardez ce qui nous est dit comme enseignement. Ils vivent la peine autour du prophète والسلام, et Allah subhanahu wa ta'ala leur donne un enseignement. Quel est-il cet enseignement? Eh bien, c'est l'enseignement de Moussa alayhi salam qui les a précédés. Et qu'est-ce qui se passe avec Moussa? Moussa, dans cet enseignement, dans ces versets, dit la chose suivante. « Ô mon peuple, pourquoi me faites-vous du tort alors que vous savez que je suis l'envoyé de Dieu parmi vous ?» Et effectivement, Moussa alayhi salam a été envoyé au peuple qui a reconnu et qui voyait ses miracles et qui voyait et qu'il les avait libérés. Et malgré tout ceci, il lui faisait du tort. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous montrer par cela, c'est que dans l'ensemble de l'histoire de la prophétie, et pour nous les prophètes, ce sont des hommes et des modèles. Ce sont des modèles par leur foi, des modèles par leur détermination, des modèles par leur résistance et des modèles par leur espoir. Les quatre dimensions qui sont fondamentales pour nous, ta foi, ta détermination, ta résistance et tes espoirs. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce qui fut avant, c'est pour nous dire, regardez Moussa ce qu'il a eu à vivre, alayhi salam. Il savait les gens autour de lui qu'il portait le message de vérité et malgré tout ceci, il a dû effectivement faire patience, être déterminé. Rahmatullah ala Moussa, laqad oudhiya bi akthari min hadha fa sabar, a dit le prophète alayhi salam. Bénédiction sur Moussa alayhi salam. Il a subi beaucoup plus que ce que nous subissons et il a persévéré, il a fait patience. La reconnaissance du prophète alayhi salam sur ce qui fut avant lui et qui fait comprendre pour nous au travers de l'exemple du prophète alayhi salam, mais au travers de l'histoire, c'est que même un peuple qui a reconnu les signes de la vérité a combattu celui qui les portait. Même à l'intérieur de son peuple, il fut rejeté et il a résisté et il a combattu et il s'est exilé et il a clamé haut et fort la véracité de ce message jusqu'au sacrifice de devoir partir et de devoir s'exiler, de voir son propre peuple le remettre en cause. Quand ils sont arrivés, par exemple, au moment où il fallait aller combattre, et qu'est-ce qu'ils lui ont dit ?« Fadhhab anta wa rabbuka faqatala » »« Pars, toi et ton Dieu, et va combattre. » Qui lui a dit ceci ? Son propre peuple avec qui il venait de sortir d'Égypte ont dit à Moussa alayhi salam, « Va, toi et ton Dieu, va combattre, nous on va pas y aller. » Tous ces signes qui ont précédé pour se retrouver au moment où il faut résister, va tout seul. Son propre peuple. Et si Moussa alayhi salam, malgré tout ceci, a demandé pardon, a été déterminé, c'est dire pour nous, parce que ce sont des histoires qui ont traversé l'histoire, et bien c'est dire pour nous, là où nous nous trouvons, bien que les épreuves seront présentes, que porter la foi, c'est vivre l'épreuve. Porter la foi, c'est vivre l'épreuve comme Moussa alayhi salam l'a porté, son propre peuple. Son propre peuple dans la peine. Ça me fait penser à des moments donnés, quand vous entendez des choses comme ceci, à ce qui nous a été dit très récemment, il y a 4 ou 5 ans, quand cela se passait en Bosnie, dans l'épreuve. Vous aviez des Serbes et des musulmans bosniaques les uns à côté des autres, et des femmes bosniaques qui viennent maintenant de faire tout un rapport sur ce qu'elles ont pu vivre, on dit « Parfois, celui qui nous violait, ou celui qui nous insultait, ou celui qui tuait les gens de notre communauté était notre voisin de palier, était notre voisin dans la maison, il était de notre peuple, et dans l'épreuve, il n'était plus des nôtres. » Eh bien, ça, c'est l'épreuve. À un moment donné, cette fracture et cette nécessité de comprendre que dans le message de Moussa, alayhi salam, son propre peuple l'a parfois remis en cause. Et quand ils ont, par cette négation, dévié falam mazaru, c'est-à-dire ils ont dévié de la voie azar Allahu qulubahum, Dieu a augmenté leur distance. Peu sincères, peu enclins justement à la reconnaissance de cette sincérité, et bien ce qui se passe ici, c'est effectivement la dimension de Allah subhanahu wa ta'ala fait dévier davantage ceux qui ne reconnaissent pas sincèrement, ceux qui sont dans l'hypocrisie finalement et dans la non-reconnaissance de la véracité, qui voient la vérité et la combattent pourtant. Et Dieu ne guide pas le peuple qui est sous l'emprise de la perversité. Deuxième exemple, c'est celui de Isa, alayhi salam, de Jésus, qui vient également et qui vient confirmer ce qui était avant lui et qui vient en même temps, comme on l'a vu ici, annoncer la venue d'un envoyé qui viendra après, Ismuhu Ahmad. Alors, il vient annoncer cette dimension et lui aussi a subi de la même façon l'épreuve. Il a subi, malgré les miracles, malgré l'ensemble de ceux avec quoi il est venu, la négation de ceux qui l'entouraient, la non-reconnaissance. Et d'abord, d'une partie du peuple juif qui ne voyait pas en lui le Messie, et en même temps, l'épreuve de la persécution. Et c'est le deuxième exemple qui est mis en évidence. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il aime ceux qui sont en rang serré et qui luttent. Mais il n'y a pas eu dans l'histoire quelqu'un qui soit venu, ou avec la foi, ou avec la volonté d'être dans le droit chemin, qui refuse l'injuste, qui refuse l'exploitation, qui dit il n'y a qu'un Dieu et je veux le servir, qui ne subisse le poids de l'épreuve, le poids de l'adversité et le poids de l'insulte. Donc il n'y a, et même pour nous, à des moments donnés, certains sont étonnés de voir autour d'eux, que ce soit dans la société française ou dans la société européenne, parfois un rejet comme ceci, une manifestation extrêmement agressive à l'endroit de celui qui dit Dieu. Pas seulement le musulman, aujourd'hui ça se concentre sur l'islam pour plein de raisons. Mais pour ceux qui disent Dieu, il y en a qui ont une espèce de rejet, de quelque chose qui vient de l'intérieur et qui serait à pouvoir les persécuter, même à vouloir s'en débarrasser. C'est vrai pour tout ce qui est l'expression d'une spiritualité. Alors nous avons à lutter contre nous-mêmes et à résister aussi contre tout ce qui peut venir de l'extérieur. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait ici, c'est de nous dire « Mais observez l'histoire ». Ayez de la mémoire. Une mémoire longue, c'est remonter jusqu'à Moussa ici, par exemple, alayhi salam, et une mémoire un peu plus courte, c'est remonter dans l'histoire plus récente. Et qui a de la mémoire, alimente et enracine sa foi. Ce qui enracine la foi, c'est la mémoire. Et la mémoire de Dieu et la mémoire de l'histoire. Ça s'appelle comment ceci ? Le rappel. À double dimension. Et dhikr. Dhikrullah, ce souvenir de Dieu, et dhikr al-qasas, c'est-à-dire le souvenir des histoires qui ont traversé le Coran et l'histoire des hommes. Donc on a ici, de la même façon, la reconnaissance de ces deux moments ici qui sont rappelés. Et on a Isa qui dit « Viendra après moi un prophète ». Alors c'est ce que nous pensons en tant que musulmans, c'est que dans l'Injil, Isa alayhi salam a lui-même annoncé le prophète. Et il est dit ici « Ahmad ». Alors Al-Qurtubi dit par exemple « Ahmad, c'est celui qui loue le plus Ahmad al-Hamidi », c'est-à-dire celui qui est le plus louangeur parmi ceux qui rendent louange. Alors il l'explique par la racine du mot. D'autres vont l'expliquer, d'autres savants du tafsir vont l'expliquer par le fait que le prophète a dit « J'ai plusieurs noms, Muhammad, Ahmad, et d'autres encore, El-Mahi, El-Aqib, tous d'autres noms qui sont les noms du prophète alayhi salam, et il dit « Je m'appelle comme ceci » dans plusieurs hadiths authentiques. Il est rapporté qu'il a lui-même explicité le fait qu'il avait plusieurs noms et qu'ils étaient, et dont ceci évidemment, il y a le nom Ahmad, qui est de la même racine que Muhammad. Et dans le terme Muhammad, comme le dit très bien Al-Qurtubi, il dit une chose, El-Muhammad alladhi humida marratan wa marra, c'est-à-dire ba'da marra, c'est-à-dire il dit celui qui El-Muhammad, c'est-à-dire celui qui est le qui louange au sens de la racine de Muhammad, c'est celui qui exprime la louange de à plusieurs de façon multipliée, marratan ba'da marra, c'est-à-dire les unes à la suite des autres. Et ça met en évidence le renvoi à la racine Ahmad au sens de celui qui est dans le superlatif, celui qui louange davantage que les autres. Donc cette reconnaissance-là, pour nous, elle est évidente d'une histoire qui est venue. وَلَمَّ جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, quand il est venu justement avec ce qui était les choses, les évidences, eh bien ils ont dit ceci est une magie manifeste, c'est un hadha sihrun mubin, c'est-à-dire une magie qui est évidente. Ils n'y crurent pas. Alors certains disent c'est quand Isa alayhi salam est venu qu'ils n'y crurent pas, d'autres disent c'est quand Ahmad, le Ahmad du Coran, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu et qu'on ne l'en a pas cru. Les deux histoires ici mettent en évidence fondamentalement le fait de cette épreuve continuer au travers de l'histoire et que nous devons reconnaître comme étant, si vous voulez, la constante de cette épreuve. Alors, autant tout à l'heure, il nous avait été mis en évidence le fait que il fallait, de ce point de vue-là, reconnaître la dimension de l'union. Eh bien, là, ici, dans cette dimension, ce qu'il faut reconnaître, c'est la dimension de la détermination. Union et détermination. La détermination qui est celle de Isa, qui est alayhi salam, et qui fut celle également de Moussa alayhi salam dans l'histoire. Et ensuite, on entre dans les versets qui suivent, dans l'expression, justement, d'un enseignement général. Après les deux éléments de l'histoire qui nous ont été mis en évidence pour nous dire c'est la constante, viennent deux enseignements beaucoup plus globaux. Qu'est-ce qui nous est dit ? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Quel est le plus injuste que celui qui ment sur Dieu alors qu'il est appelé à la soumission ? Alors ici, l'islam, c'est tout à la fois la religion, mais c'est l'acte de foi. C'est l'acte de foi de la reconnaissance du Dieu créateur. Ce qu'ont fait tous ceux qui ont précédé le prophète Rasoulallah et qu'a fait le prophète pour les confirmer, il a appelé à ce message unique. Le même en islam qui a traversé les âges, il n'y a qu'un Dieu, reconnaissez-le, servez-le. Et c'est le sens du mot islam. Soumission dans le sens reconnaissance du Créateur. Et qui est celui qui est le plus injuste ? En fait, ce qui nous est dit ici, c'est que c'est une injustice la non-reconnaissance. C'est qu'en fait, il y a tout dans les horizons. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Dans tous les horizons et en nous-mêmes, il y a la justice, l'équilibre, c'est la reconnaissance de celui qui est le maître, le créateur de toutes choses. Et que la non-reconnaissance, justement, c'est de ne pas le reconnaître et en plus de cela, de mentir à son sujet. De mentir à son sujet. Alors, il y a effectivement sur la terre des êtres qui mentent sciemment au sujet de Dieu. Il y a des gens qui mentent sciemment au sujet des vérités. On le sait à petite échelle, certains voient la vérité et mentent sur la vérité. Eh bien, ce que dit l'islam, et c'est pour nous aussi une compréhension très profonde de ce message, il en est qui, par rapport à cette vérité, la compréhension intérieure de la présence de Dieu, même s'il voit des signes, il les nie. Et il développe un discours sur la vie et sur ses signes, qui est un discours qui est contraire à la réalité des choses. Donc il y a ce mensonge aussi qui existe parmi les hommes. Ce dont nous devons nous protéger dans la détermination et dans l'union, c'est du mensonge. Du mensonge des gens. Il y a des gens, toujours c'est très étonnant, vous passez des heures à leur dire une chose. Vous passez par la droite, puis vous passez par la gauche, et puis vous passez sur des faits qui se sont passés, sur des, la façon dont vous avez essayé de traduire votre propre foi, et en permanence, ils ne vous écoutent pas. Ils disent sur ce que vous avez dit autre chose que vous, ce que vous avez dit. Vous avez beau répéter, c'est comme si leur mauvaise attitude au départ, transformait l'ensemble du propos et l'ensemble de l'attitude que vous tenez. Ils ne voient de ce que vous présentez que ce qui confirme le préjugé qu'ils en avaient. Et voir confirmer un préjugé, c'est parfois sciemment vouloir confirmer un mensonge, quand ce préjugé ne correspond pas à la réalité. Et vous avez des gens qui sont comme ça dans votre vie quotidienne. Et donc de ce point de vue-là, c'est ce qui nous est dit ici dans le Coran, qui est plus injuste que ça, quand on ment sur Dieu? Alors pour nous aussi, il y a eu au travers de l'histoire des gens qui ont changé les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de l'histoire. Il y en a même à l'intérieur de la communauté par rapport aux hadiths, il y en a pour des raisons politiques, ils ont inventé des hadiths, ils ont inventé des traditions. Ceux-ci justement, ils se voient et ils ont à attendre, et chacun d'entre nous, raison pour laquelle il faut faire attention à sa langue, et c'est la deuxième occurrence ici dans ce sourate où il faut faire attention à la langue, méfie-toi de ce que tu dis pour ne pas dire un mensonge. Et également la reconnaissance que Dieu ne guide pas les peuples qui sont atteints justement par l'injustice, qui sont injustes. Si dans ton être tu développes une attitude injuste par rapport à par rapport aux choses, et bien Allah subhanahu wa ta'ala ne te guide pas. Et en fait, c'est une disposition naturelle. Si vous êtes injuste par rapport à l'objet d'étude que vous avez, vous ne pouvez pas dire des propos de justice. Si vous avez une vue réductrice sur ce que vous dites, comme certains parlent de Dieu avec une vue parfois réductrice et parlent de ceux qui portent la foi avec une vue réductrice, ils ne sont pas guidés dans leur raisonnement. Et c'est ce qui nous est dit ici. Dans le verset qui suit, voilà leur attitude. Dans leur mensonge, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent éteindre à la lumière de Dieu avec leur langue. Troisième occurrence, avec leur langue. Ils veulent éteindre à la lumière de Dieu. Mais Dieu parachèvera sa lumière, malgré et contre l'espoir de ceux qui le nient ou qui nient la présence de Dieu. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Dieu parachèvera sa lumière. Qu'est-ce qu'ils veulent? Avec leurs propos, effectivement, ce qu'ils veulent. Alors, et nour ici, certains ont dit c'est l'islam lui-même, d'autres ont dit c'est le Coran, c'est le Coran, d'autres l'ont interprété comme Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, d'autres ont dit ce sont les preuves de Dieu, Hujajullah, d'autres ont dit effectivement c'est une image qui veut mettre en évidence que la vérité c'est comme le soleil, c'est comme de la lumière et qu'on ne l'éteint pas, quoi que l'on fasse avec sa langue. Donc on a différentes interprétations, et ce verset a été révélé à quel moment? Il a été révélé au moment où il y a eu un arrêt de 40 jours dans la révélation. Et que ceux qui ont vu l'arrêt de 40 jours se sont dit, c'est terminé, il n'y a plus de révélation. Il ne dit plus qu'il a des révélations, c'est terminé, son inspiration s'est terminée. En particulier, Ka'b ibn al-Ashraf a mis ceci en évidence, appelant les gens autour, en particulier les hypocrites, en disant, regardez, c'est terminé, il n'y a plus de révélation. Comme si la révélation s'était coupée. Et qu'ils auraient aimé, eux, c'était leur souhait intérieur de voir cette révélation s'arrêter. Eh bien, ils veulent que cette révélation s'arrête, que cette révélation cesse. Ils veulent éteindre la vérité de la religion. Et regardez, c'est la quatrième dimension dont je vous ai parlé tout à l'heure. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Dieu parachève sa lumière, quoique, quelle que soit l'opposition, quel que soit le rejet que peut en avoir ceux qui nient la présence de Dieu, c'est l'espoir. C'est que tout au fond de notre cœur, pour n'importe lequel d'entre nous, n'importe laquelle, sœur, frère, homme, femme qui porte Dieu et qui porte la foi en son cœur, eh bien regardez, c'est ça la réponse. Elle est là la réponse dans l'adversité. Après avoir mis en évidence l'union, et il a mis en évidence, Allah subhanahu wa ta'ala, la détermination. Il met en évidence de la façon la plus évidente la première marche, c'est que vous êtes de ce point de vue-là, dans votre résistance, sur le chemin d'une vérité. Et que c'est l'espoir, c'est la dimension dont je parlais tout à l'heure, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la résistance, il fera parvenir. Et si l'on résiste, peut-être que ce n'est pas avec le... Et si nous résistons, c'est peut-être pas forcément avec le souhait ou la compréhension que nous sommes ici dans une... de la victoire sera pour nous. Il n'y a pas d'idée chez nous, je résiste en étant sûr que je vais réussir, moi, là où je me trouve. Non, c'est une compréhension très très profonde que nous sommes dans un cheminement qui est un cheminement qui traverse l'histoire. Et peut-être que chacun d'entre nous ici ne verra pas, lui, de son propre cœur et de ses propres yeux, la réalité de quelque chose qui se manifeste positivement pour les musulmans, que ce soit en Europe ou dans le monde. On ne travaille pas à l'échelle de notre temps. On travaille dans le rapport que l'on a avec le Très-Haut et le Créateur. Et au-delà de notre temps, la seule chose qui nous est demandée, mets tout ton cœur dans l'union, mets tout ton cœur dans la détermination, mets tout ton cœur dans la résistance, et la lumière s'accomplira. Si ce n'est pas de ton temps, ce sera plus tard. Le seul devoir que tu as, c'est d'en faire partie, d'être parmi ces résistants, d'être parmi ces déterminés, d'être parmi de ceux qui ont choisi l'union. Voilà le rôle de chacun durant sa vie, et le résultat, Wallahu a'lam. On ne sait pas qu'est-ce qui l'en adviendra de notre temps. Ce que l'on sait, c'est qu'au-delà des temps, il y a une vision très positive, un espoir très très fort. C'est que quoi qu'il arrive, même si tu peines, même si tu pleures, même si tu es blessé, même si on te gifle, même si on t'insulte, même si on t'exclut, même si on te critique, même si l'on te nie, dans l'histoire tu es. Et dans l'histoire tu seras reconnu. Et Dieu reconnaît ce que personne ne voit. Et Dieu reconnaît et accompagne ceux qui sont dans la résistance. Et même parfois, il n'y a pas besoin d'être dans le haut d'une estrade pour être un résistant digne. Il n'y a pas besoin d'apparaître. Parfois, la résistance, c'est presque de ne résister qu'à ta propre personne. Des fois, tout seul, la résistance que tu as contre toi, c'est une résistance tellement difficile. Chacun d'entre nous, c'est ça. Des fois, le pire, c'est ce que tu sens que tu pourrais faire tellement. Parfois, il y a des élans en toi qui ne sont pas bons du tout. Puis ensuite, il y a le reste. Toi, autour de toi, plus autour de toi, dans ta société, dans plus généralement. Cette dimension, elle est vraiment celle-ci. C'est qu'ils veulent l'éteindre et ils n'y arriveront jamais. Jamais ils n'auront raison de ce cheminement vers le juste, de ce cheminement vers le bien, de cette sincérité de ceux qui disent que ce qu'ils font est qu'ils font à la mesure de ce qu'ils disent. Et dans cette perception, pour la continuation et la compréhension de ceci, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, il nous donne la réponse. Après avoir demandé quelle était la meilleure des résistances et de nous avoir inscrit le chemin, il nous dit « وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ » C'est lui qui a envoyé son envoyé, c'est lui qui a fait parvenir son envoyé avec la guidance, de la guidance et la religion de vérité, pour qu'il fasse apparaître cette religion au-delà de toutes les autres religions. Alors, qu'il faille faire une bonne compréhension de ceci. Al-Qurtubi dit très très clairement dans son tafsir, confirmé d'ailleurs par Ibn Kathir et d'autres, c'est que ça ne veut pas dire que l'islam va faire disparaître toutes les autres religions. Non. La vérité de cette religion et la continuation de cette religion par rapport aux êtres va apparaître historiquement. Et nous le voyons aujourd'hui par rapport à la question de l'islam, cette religion apparaît dans sa réalité. Même si elle est critiquée, même si elle est rejetée, elle apparaît. Non pas en niant toutes les autres, dans le respect de toutes les autres, mais elle apparaît dans la droite ligne de la compréhension aussi, au-delà de ce que sont et le judaïsme et le christianisme des religions révélées, la réalité de l'islam apparaît comme étant une religion qui a un rôle historique, un fondement fondamental dans l'histoire tout entière. Et là, ce n'est pas la négation des autres. Ce qui est pour nous le chemin vers la vérité, c'est au moment où Isa alayhi salam viendra et que là alors ce sera là, à la fin des temps, la réalité de l'islam souverain. La réalité de l'islam souverain. Mais ça ne veut pas dire dans l'histoire que toutes les autres religions disparaîtront. Non, pas du tout. La compréhension ici, c'est que nous sommes dans un cheminement vers le vrai, vers le bon et vers le juste, une vision extrêmement positive de l'histoire, mais qui, dans ce cheminement vers le bien et vers le juste, nous dit très clairement une chose, la réalité de la réalité de la présence de l'islam au cœur de cette histoire qui se fait et au terme également de cette histoire. Pour terminer, et c'est le dernier ici, les deux derniers versets, qui au terme sont la conclusion de l'ensemble de cette compréhension pour nous de ce cheminement vers le juste. Après la reconnaissance de cette religion et la compréhension de cette union, de cette détermination, de cette résistance et de cet espoir, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui nous interpelle. Et il nous dit ceci, « Ya ayyuhalladhina amanu » Il nous interpelle comme il nous a interpellé au début de la sourate. « Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim » تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم Ô vous qui portez la foi, vos frères, vous enseignerai-je, vous informerai-je d'un commerce qui vous épargnera d'un châtiment douloureux. Vous croirez en Dieu et en son envoyé. Vous lutterez dans sa voie au moyen de vos biens et au moyen de votre personne. Ceci est mieux pour vous si vous saviez. Et puis, il vous pardonnera vos péchés et il vous fera entrer dans des paradis dans lesquels couleront des ruisseaux et dans des demeures, de belles demeures, dans le jardin d'Éden. Ceci est la victoire glorieuse et la grande victoire. La réflexion de tout ce cheminement pour nous faire comprendre, au bout du compte, qu'il y a un choix à faire, un commerce. Un commerce qui est la compréhension, effectivement, sur la base aussi de la façon dont parlaient les compagnons du prophète, Rasulullah. Qu'est-ce qui nous est dit? La réalité, dans la détermination, de faire le choix, d'accepter l'épreuve au nom d'une autre foi en Dieu. Tu'minuna billah, croire en Dieu. Et donc c'est la spiritualité, c'est le premier verset de la sourate, la reconnaissance de la spiritualité. Puis ensuite, ça nous renvoie de nouveau au deuxième. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. À ceux qui parlaient du commerce, vous lutterez dans la voie de Dieu et il est mis d'abord amwalikum, vos biens, avant anfusikum, parce qu'on parle justement de ce commerce, donner de vos biens dans la voie de Dieu et donner de votre être entièrement, complètement de votre être pour pouvoir être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette dimension ici, et ceci est mieux pour vous si vous saviez. Vous avez remarqué, comme l'ont dit un certain nombre de savants, c'est étonnant ce verset. C'est étonnant ce verset parce qu'il a les trois dimensions de la foi en un verset. Tu'minuna billah, el iman, wa tujahiduna fi sabilihi, el jihad, la lutte et l'effort. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون العلم العلم الجهاد au sens de l'effort والإيمان les trois piliers de l'islam la dimension totale est dans ce verset là
Apprenez-le, ce verset. Tout y est. Si vous voulez le paradis, si vous voulez le pardon, si vous voulez le jardin le plus élevé parmi tous les jardins, au-delà de tous les jardins que vous pouvez imaginer dans votre être et dans votre conscience, rappelez-vous simplement que c'est cette dimension-là de la détermination, mais la foi d'abord. Et la détermination, c'est lutter avec ses biens et lutter avec son cœur et son être dans la voie de Dieu, et il pardonne les péchés et il nous fait entrer dans les jardins les plus élevés. Comment ne pas s'arrêter dans cette, à ce moment de la conclusion de ce verset, Sof, le rang, à se souvenir d'une seule chose, les quatre dimensions essentielles du modèle de la prophétie. Ils ont cru de tout leur cœur. Ils étaient déterminés de tout leur être. Ils ont résisté de leur corps et de leur argent. Et ils ont espéré au-delà de tout espoir. Et ces versets que nous venons d'avoir nous disent ceci. Développe au plus profond de ton cœur une foi qui soit une foi qui maîtrise ta langue, mais qui illumine ton cœur. Sois déterminé dans l'union avec tes frères et tes sœurs, et sache qu'à chacun d'entre nous, où qu'il soit, il y a un champ de résistance et un champ de bataille. C'est parfois son propre cœur, c'est parfois les gens à l'extérieur. Eh bien, ou les propos, ou une société qui a des problèmes de marginalisation et d'exclusion. La troisième des dimensions, c'est cette résistance perpétuelle qui doit être celle qui renforce notre foi. Et finalement, il n'y a pas à désespérer, il n'y a pas à déprimer, il n'y a pas à se renfermer. Wallahu mutimmu nurihi wa law kariha al-kafirun. La lumière sera parachevée, quoi que n'importe qui sur cette terre fasse. L'histoire retourne à lui, comme chacun d'entre nous vient de lui et retourne à lui dans sa petite vie. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est la fin de la première partie.